17h au studio Kalangou, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de ce lundi 30 janvier 2023. Tout de suite, les titres. Le monde du théâtre nigérien est en deuil avec le décès hier à Maradi du metteur en scène Alhaji Aboubakar Lobi. Dans ce journal, un de ses proches témoigne. Il faut réguler la migration pour qu'elle soit bénéfique à tous, a déclaré le secrétaire permanent du cadre de concertation du ministère de l'Intérieur. C'était au cours d'une rencontre le 26 janvier à Agadez entre les acteurs nigériens et étrangers de la migration. Le magazine de cette édition nous éclaire sur comment sont traitées les affaires foncières dans le département du Boboy. Nous débutons donc cette édition avec une information nécrologique. Après Mustapha Rafa, Omar Hadari, Maradi vient de perdre un autre acteur culturel qui a marqué de son talent les scènes du Niger. Il s'agit d'Alhaji Aboubakar Lobi, metteur en scène des pièces théâtrales. Il est décédé hier en laissant derrière lui une veuve, 12 enfants et 28 petits-fils. Alhaji Chebou Begou, compagnon de l'homme, nous parle du défunt au micro de Mohamed Maman.
Nous avons joué sur toutes les scènes de maisons de jeunes du Niger à l'occasion des festivals de la jeunesse que Kounché a institué. Nous avons formé une troupe d'enseignants élargie à la Samaria. Et on est parti donc au festival de Tawa, de Maradi, de Niamey, de Zender, de Difa et que sais-je encore, où on était toujours classé minimum premier. Mais la pièce qui a fait connaître Aboubakar Lobi dans ce pays-là, c'est notre pièce Table Kamal Langabou au festival de Difa en 1981. Dès lors, nous nous sommes séparés, il s'est retrouvé à Zender où il a créé sa propre troupe. Et Dieu seul sait les pièces, les scénettes, les sketchs qu'il a vraiment produits. Nous avons écrit une dizaine de pièces. Il est humoristique comme Yazid Dogo. Depuis son jeune enfance, en tout cas c'est comme ça. Aboubakar, il aime faire rire. C'est un artiste, un acteur de théâtre hors pair.
Le torchon continue de brûler entre le syndicat national des enseignants des instituts et grandes écoles du Niger, SNEJ, section de Maradi, et le recteur de l'université Dandi Kodonkolodo de la région. Le samedi 28 janvier, les enseignants technologues, dans une déclaration, condamnent la correction des rapports des étudiants en fin de stage par des enseignants qui ne relèvent pas de leur corps. Bernard Abdoulaye, secrétaire général du SNEJ, que je vous propose d'écouter.
Au niveau de l'Institut universitaire de technologie de Maradi, le recteur a dégradé la situation en faisant corriger les rapports par des enseignants qui sont autres que ceux de l'Institut universitaire. Or, l'arrêté à lui-même, à son article 3, précise que les enseignants qu'il faut choisir pour faire les corrections de ce rapport-là doivent être des enseignants qui relèvent du département qui sont rattachés à l'Institut universitaire de technologie. Ceux qui ont corrigé des rapports, c'est des enseignants qui ne relèvent pas du département d'attache, comme l'article le précise, notamment le secrétaire général du syndicat des enseignants chercheurs du supérieur, section de Maradi, et certains enseignants de la faculté d'agronomie et des sciences environnementales, et puis d'autres enseignants de la faculté des sciences et techniques de l'Université de Kolodé Maradi, plus certains ingénieurs qui sont des ingénieurs ambulants qui ne relèvent pas complètement de l'enseignement supérieur. Et c'est ça que nous festigeons pour l'instant.
Pour le recteur de l'Université de Maradi, professeur Sani Maman, ses enseignants ne maîtrisent pas les dispositions de l'arrêté ministériel. Selon lui, il était obligé de trouver une solution dès lors où les enseignants ont refusé de corriger ses rapports. On l'écoute au micro de Mohamed Maman.
Tous ceux qui ont assuré les corrections des différentes filières, c'est-à-dire à savoir le génie électrique, le génie mécanique et le génie civil, sont des docteurs, ingénieurs et des ingénieurs. Donc, qui ont la même qualification que eux. Et dire que c'est pas conforme. Un arrêté qu'ils ne reconnaissent pas. Pourquoi maintenant ils se réfèrent aux dispositions de cet arrêté? Et de toutes les façons, ils l'ont refusé de corriger. C'est pourquoi on a cherché d'autres à corriger. S'ils ont une solution à ça qu'ils nous la proposent, à même reprise, je les ai rencontrés et j'ai dit de me dire concrètement qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local pour résoudre ces problèmes. Ils ont dit que non, ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend de leur bureau national, le BEN. Donc, vous voyez, maintenant qu'on ait trouvé une solution, à la limite, je dirais, il y a là une sorte de démagogie, voire même à la limite une hypocrisie. Un enseignant n'a pas à reconnaître les notes de quelqu'un dans notre quartier.
En bref, les attaques des hommes armés non identifiés de la commune de Gorol, village de Tegueï, ont contraint les populations à se réfugier à Bankilaré. À la date du 27 janvier, 1293 ménages ont été recensés, soit plus de 7000 personnes selon les responsables administratifs qui se sont confiés à notre correspondant. Agadez est un axe stratégique très important pour la migration. C'est dans cette logique qu'une rencontre des acteurs nigériens et étrangers s'est tenue le 26 janvier. Le but de cette session est de trouver des solutions à la problématique de la migration. Soli Amadou, secrétaire permanent du cadre de concertation au ministère de l'Intérieur, explique au micro de Anissé Karim.
Nous venons en appui technique au cadre régional de concertation sur la migration d'Agadez pour amener l'ensemble des acteurs à se concerter et trouver des solutions, surtout pour la problématique migratoire. Vous savez que en 2020, le Niger a adopté sa politique nationale de migration et dont nous nous attelons à sa mise en œuvre. Nous faisons tout pour que justement qu'il y ait une synergie des différents acteurs, un dialogue, créer, opérationnaliser les espaces de dialogue pour justement enfin trouver des pistes de solutions pour la problématique migratoire justement au Niger. La migration, quand elle est bien gérée, elle est bénéfique et pour le migrant et pour le Niger. Je pense au fait qu'il faudra juste réguler cette migration pour qu'elle soit bénéfique pour l'ensemble de la population.
L'actualité est toujours en région. Le gouverneur de Dosso a convoqué hier les responsables de la sécurité routière pour une réunion d'urgence suite à la recrudescence des accidents de la route ces derniers temps. Alassane Mamane, directeur régional des transports de Dosso, évoque ici les mesures arrêtées par la réunion. Il est au micro de Aoussi Abdrahman.
Le gouverneur a interdit à compter d'hier à tout véhicule transporteur voyageur de circuler à partir de 23h d'ailleurs, au lieu de 0h. La police immobilise tous les véhicules transporteurs voyageurs dans la région de Dosso. Voilà ce qui a été arrêté. Et en dehors de ça, nous-mêmes, moi et le maire et le premier vice-maire, on nous a instruit de prendre toutes les mesures nécessaires pour renouveler les panneaux de signalisation, les feux optiques.
Ici à Niamey, l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey a procédé à la saisie d'une importante quantité de carburant fraudé sur l'espace de la cité universitaire. L'organisation a tenu un point de presse hier pour expliquer la démarche. Les détails avec Al-Mustapha Bakimba Touré, secrétaire général de l'UNUN, interrogé par Rafika Taher.
Nous avons constaté que dans le milieu universitaire, il y a un réseau assez énorme de ventes de carburant fraudé. Et nous sommes dit qu'il faudrait arrêter ça. Mais la majorité de ces personnes ne sont pas étudiantes. L'essence fraudée, ils les stockent sur plusieurs endroits au niveau du campus universitaire. Ils ont construit des boutiques dans lesquelles il y a beaucoup de bidons au niveau des espaces verts. Et même souvent dans les bâtiments, les mesures que nous avons prises d'abord, c'était de demander à la CASO, la commission d'ordre, de procéder à la saisie de tous les bidons qui circulent sur le campus universitaire et d'appeler également ceux qui sont impliqués de manière directe ou indirecte dans cette question de fraude de carburant pour leur dire que désormais, à partir de cet instant, il n'y aura plus de vente de carburant fraudé sur les campus universitaires. Ça, c'est un fléau qui risquerait en tout cas de créer beaucoup de dangers, des risques d'incendie. Ça devient une porte ouverte à toutes les délinquances possibles sur le milieu universitaire. Toute personne que nous allons constater en train de vouloir reprendre le même projet et le même commerce répondra de ses actes.
Les prix des denrées alimentaires connaissent une hausse à Bilma, une localité située à plus de 600 km au nord de la ville d'Agadez. La rareté des camions de marchandises due à l'insécurité et l'augmentation du prix des transports de marchandises sont à l'origine de cette inflation des produits de première nécessité dans le Kawar, indique Issoufou Oumar, coordinateur départemental des organisations de la société civile de Bilma. Il est joint au téléphone par Moussa Maman.
Au Kawar, tous les produits de première nécessité sont devenus intouchables. Il y a moins de 2 ans, le sac de riz se vendait à 7000 francs. Maintenant, c'est 14 500 francs sur le marché du Dukou et de Bilma. L'huile, c'était à 750 francs le litre. Maintenant, c'est devenu 1750. On ne peut pas avoir le mille à moins de 20 000 francs, le sac de 50 kilos. N'en parlons même pas du semoule qui a augmenté, qui est allé jusqu'à 15 000 francs. Un paquet de macaroni qui passe de 250 à 400 francs. Maintenant, en tout cas, j'ai pu confirmer que tout est cher. Maintenant, c'est la survie quand même. C'est la rareté maintenant des camions qui viennent tantôt des pays étrangers, tantôt de l'extérieur du Niger, dû à l'insécurité grandissante. Et même le transport aussi a augmenté. C'est pourquoi maintenant tout est devenu cher. Nous sommes un peu isolés dans une région laissée à nous-mêmes. Vraiment de faire quelque chose pour la population qui souffre beaucoup de cette augmentation vertigineuse des prix.
Le gouvernement du Nigeria a augmenté un délai de 10 jours aux citoyens pour échanger les anciens billets. La date à limite était demain 31 janvier, mais le nouveau délai court jusqu'au 10 février. Les populations de Koni frontalières se réjouissent de cette nouvelle prolongation. On les écoute au micro de Asman Moussarzika.
Effectivement, hier nous avons eu l'information selon laquelle le gouvernement du Nigeria a prolongé de 10 jours la date d'échange de la nouvelle coupure de Naira. Ce n'est pas cela le mal. Ce que nous, en fait, jusqu'à présent, nous n'avons encore pas vu cette nouvelle coupure. Au Nigeria comme au Niger, personne ne donnera le franc CFA pour avoir la nouvelle coupure de Naira. Jusqu'à présent, c'est toujours le statu quo.
Nous devons juste patienter et accepter la situation. Mais certains sont coincés. Pour certains, c'est peu et pour d'autres, ce n'est pas le cas. Tu viens d'un coup, on te dit qu'il n'y en a plus, ce n'est pas bon. Le commerce, ça va. Pour certains, ça marche et pour d'autres, ça ne marche pas. C'est le changement du Naira qui a amené tout ça là.
Par rapport à l'augmentation du délai, je dirais que nous préférons qu'on laisse la situation telle qu'elle est actuellement, car il reste un tout petit peu pour que tout soit effectif. Maintenant, avec cette augmentation du délai, nous sentons que nous allons souffrir plus. On a augmenté le délai au moment où nous nous sommes débarrassés de ce que nous possédions. Quel est donc l'avantage, étant donné que nous n'avons rien pour mener notre vie.
La 7e édition du championnat d'Afrique des Nations bat son plein en Algérie. Les demi-finales débuteront demain. Le Sénégal jouera contre Madagascar et les Nigériens défieront le pays hôte, à savoir l'Algérie. Le Niger qui va disputer sa première demi-finale de l'histoire du CHAN après 4 participations se dit confiant pour affronter le pays organisateur devant son public. On écoute Haroun Odoula, entraîneur de l'équipe du Niger.
On espère qu'ils vont répondre véritablement dans ce match. Physiquement, je n'ai pas d'inquiétude. Je pense qu'ils peuvent le gérer. Maintenant, mentalement, oui, le public, si on arrive à résister, moi, je pense qu'on peut aller chercher cette équipe algérienne. Et j'avais dit, déjà, il a 2 victoires face au Niger en match amicaux. C'est l'inverse de 203 qui va se faire. Nous aussi, on va aller chercher au moins une victoire face à l'Algérie. Sa malchance, c'est que ça sera en demi-finale. C'est qu'une équipe n'ira pas en finale forcément. On verra. On a les armes pour aller jouer cette équipe algérienne. J'ai dit, c'est une équipe que je respecte. Je pense que chacun va jouer sur les forces et les faiblesses des uns et des autres pour aller chercher cette finale. Il a les moyens, nous avons les nôtres.
Le magazine de ce journal, le département de Boboye, fait partie des localités du Niger où le foncier oppose des communautés. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes ou membres d'une famille à saisir le tribunal pour régler le litige. Seulement, souvent, les plaignants outrepassent la décision du juge Boboye pour se référer ailleurs. Écoutons Adamou Garba Rachida, ancien président du tribunal de Boboye, interrogé par Soumana Amadou.
En matière de justice, quelle est la procédure à suivre pour régler un litige foncier entre deux parties?
On tente toujours la conciliation qui est obligatoire selon la loi, parce que comme on le dit, une mauvaise conciliation vaut mieux un bon jugement. Autant à parvenir à la conciliation que d'aller en jugement qui peut prendre énormément de temps. Donc on tente la conciliation pour régler ce genre de problème.
Si la conciliation n'a pas permis de régler le problème, alors quelles sont les prochaines étapes?
Le principe est que quand deux parties saisissent la justice par rapport à un litige foncier, on permet à la personne qui a l'habitude d'exploiter le terrain de continuer l'exploitation jusqu'à la fin du procès. Mais quand il y a des risques d'affrontement, on interdit l'exploitation du terrain jusqu'à la fin du procès. Maintenant, si une des parties, malgré la décision du juge d'interdire l'exploitation, passe outre et part à s'aimer ou exploiter le terrain, là, elle fait face à la loi. Elle va répondre de son acte devant la loi. C'est ce qu'on appelle résistance à l'exécution d'une décision de justice et c'est fréquent dans le Boboye.
Dans le cas où l'une des deux parties conteste la décision du premier juge, quelles sont les voies de recours?
Les décisions en matière foncière, généralement, font toujours l'objet d'appel. Dès qu'on rend une décision à notre niveau, les gens font appel systématiquement devant le tribunal de grande instance de Dosso. Là-bas aussi, après avoir rendu la décision, les gens font pourvoi jusqu'à la Cour de cassation à Niamey. Et la Cour de cassation, on n'en a qu'une seule au Niger, donc c'est elle qui gère tous les problèmes fonciers du Niger. Et c'est pourquoi vous voyez souvent ça, un seul conflit peut prendre des années. Actuellement, on a des litiges qui ont plus de 30 ans, qui reviennent encore.
Comment faire exécuter la décision du juge?
Quand les voies de recours sont épuisées, on appose la formule exécutoire sur la décision, ce qui permet au premier juge d'exécuter la décision. Donc, il prend par ordonnance, il commet un huissier, ou en tout cas, selon la loi, même le commandant de brigade peut être commis pour aller exécuter la décision. Donc on notifie aux parties la date de l'exécution, on se rend sur le terrain, on circonscrit l'objet du litige et puis on exécute.
C'est la la fin de ce journal. Merci de votre attention. Ne quittez surtout pas, nos programmes se poursuivent.